on a appris qu'on est nul, qu'on n'est pas bon élève, qu'on n'a pas des capacités. Et ça, c'est hyper difficile à faire, de redonner la confiance quand ils l'ont perdue. Mais on doit le faire. Et on doit le faire en disant, maintenant, vous avez une autre chance, une deuxième chance. C'est pour ça que je crois tellement au projet de notre école.
Dans cet épisode, je veux vous parler d'une réforme scolaire qui n'est pas connue sous ce nom. En seulement quelques années, 6 écoles internationales publiques ont ouvert leurs portes au Luxembourg. Elles fonctionnent tous sur le modèle des écoles européennes. Les enfants ont le choix entre l'allemand, le français ou l'anglais comme langue principale d'enseignement. Une petite révolution dans un système scolaire qui s'appuie depuis longtemps sur l'alphabétisation en allemand. Et à ma grande surprise, cela ne semble préoccuper presque personne. Bien au contraire, les écoles internationales pourraient servir d'exemple pour une réforme de l'école traditionnelle, comme l'affirmait par exemple en 2022 le CSV.
Normalement, on n'est pas censé faire ça à l'école, mais dans ce cas-ci, on doit copier, on doit s'inspirer des écoles européennes, de leurs aspects positifs.
Mais quels sont les avantages de ces écoles? En quoi peuvent-elles aider les enfants qui ont des difficultés dans le système scolaire traditionnel? C'est ce que je veux découvrir dans cet épisode. Je vous amène à Esch, dans le bâtiment de l'ancien lycée des arts et métiers sur la place Victor Hugo. Voici, depuis 2017, un des deux sites de l'école internationale de Differdange chez Esch, abrégé EIDE. Je m'appelle Pia Oppel, je suis journaliste pour Radio 100.7 et dans ce podcast, je vous raconte l'histoire d'un mauvais élève. Il s'agit de notre système scolaire qui s'en tire mal en comparaison avec les équivalents internationaux. Un système scolaire dans lequel beaucoup d'enfants échouent tôt et cherchent une échappatoire. La version originale de cette série en 6 épisodes a été publiée en 2022. Mauvais élève, un podcast Radio 100.7, épisode 3, Esch International.
Je m'appelle Zara, j'ai 12 ans et j'habite à Esch.
Je suis Marina, la mère de Sarah. Je suis femme de ménage à l'hôpital d'Esch. Tu as déjà fini de préparer ton sac à dos pour l'école?
Je ne sais pas.
Quand je suis allée au rendez-vous l'année dernière pour faire le bilan, l'enseignante m'a dit « Sarah n'est pas encore au bon niveau, il lui manque le déclic, on attend encore une année. Sarah doit redoubler pour voir si ça va s'améliorer. » Et là, j'ai répondu « Non, j'en ai assez. » Ensuite, je suis allée dîner chez une amie, nous étions 6 ou 7 femmes. Je leur ai dit que j'avais un problème et une dame qui était là m'a dit qu'il y avait une école internationale et que là, il pourrait peut-être aider ma fille.
Sarah, où on va là?
On va à l'école.
Et donc, tu vas à quelle école?
Esch International.
Ja.
Gell?
Et tu es dans quelle classe?
P4 anglais.
P4, c'est la quatrième année du primaire de l'école internationale. Dans la section anglaise, la plupart des matières est enseignée en anglais. Une langue que Sarah a apprise sur YouTube.
Sarah a commencé vers 5 ans, oui, elle a reçu un iPad comme cadeau et Sarah imitait toujours un bonhomme. C'était une sorte de main et elle faisait toujours « baby finger, where are you ?» Et c'est comme ça que tout a commencé, elle chantait tout le temps et depuis, elle a toujours chanté, toujours en anglais, toute la journée.
Quand j'ai reçu l'iPad pour la première fois, je suis allée sur YouTube, j'ai cherché quelque chose. Et je n'ai rien trouvé en allemand, en français ou en luxembourgeois. Je trouvais toujours tout en anglais.
L'enseignante Sarah est née à Londres et elle a grandi en France.
Bonjour, je m'appelle Sarah Barlow, je suis enseignante à l'école internationale de Differdange à Esch, dans la P4 anglophone.
Pour travailler comme enseignant dans une école internationale, il suffit de parler l'une des trois langues administratives du pays. C'est une grande différence par rapport aux écoles traditionnelles où on peut travailler seulement si on parle le luxembourgeois, l'allemand et le français. La journée d'école de Sarah commence comme d'habitude.
Alors les enfants ont un peu de maths à faire, ils ont un peu d'anglais à faire, et puis s'ils ont quelque chose à finir, ils le finissent, sinon ils peuvent lire. Mais c'est vraiment un échauffement mental pour s'échauffer pour la journée.
So what do you have to do? What's a homophone and homonyms? What does it tell you?
Homophones are words that sound...
Il y a 18 enfants dans la classe de Sarah. La langue commune en classe est l'anglais. Sarah Barlow ne parle pas d'autres langues avec les élèves, pas non plus avec Sarah, qui était encore dans une école fondamentale traditionnelle l'année précédente.
Là, il y avait une petite que je savais allait venir dans ma classe. Au début, oh mince, c'est une petite portugaise, elle va se sentir vraiment à l'écart parce qu'elle n'aura pas la langue anglaise. J'espère, on va lui trouver une copine tout de suite. Mais le premier jour, « Hi, I'm Sarah !» Pleine de confiance et ravie d'être chez nous. Donc son cursus, je pense, était difficile. Elle ne s'est pas sentie à l'aise, elle n'avait pas fait beaucoup de progrès, elle avait redoublé et la voilà maintenant plus âgée que les autres enfants dans la classe. Mais ici, elle est chez elle.
« So he's wondering vaguely, where's this voice coming from? Who is talking ?» Sarah, are you ready for the next bit?
Yep. Leave him alone, Ginger. Well, look who it is, friend of yours.
Nous sommes en cours d'anglais. Un enfant après l'autre lit un extrait d'un livre. Sarah a appris elle-même à lire l'anglais.
On YouTube, usually there's a subtitle where you can read. And sometimes I read it from there.
Thank you very much, Sarah. Well done. You have been super readers, and you leave your tables tidy. Can you please put your chairs under, and can I have one of those silent lines outside by the radiator?
Pendant la récré, j'apprends à connaître les camarades de classe de Sarah.
I'm Giorgio. I'm Italian. I'm 9.
Hello, my name is Shazay. I was born in India. We moved from India because my dad found a job here.
Hello, my name is Alex. I'm 10 and 2 months.
Okay, I was also born in Romania.
I'm Aline. My mom is Turkish and German and my dad is German. I was born in London and in my house I speak English and German. Sometimes we mix it up.
I'm Nils, I'm 10 years old. I was born in Luxembourg. But my origin is Spanish because my parents are both Spanish. They come from Barcelona, but they moved to Luxembourg because of my grandma and my grandpa.
À qui sont destinées les écoles internationales? Je me pose cette question parce que beaucoup d'enfants de la classe de Sarah, leurs parents sont hautement qualifiés. Une première analyse de l'Observatoire national de la qualité scolaire pointe également dans cette direction. D'un point de vue socio-économique, les élèves des écoles internationales sont nettement mieux placés que la moyenne des élèves des écoles traditionnelles, selon ce rapport. Cela explique peut-être aussi pourquoi il n'y a pas de controverse autour des écoles internationales. Dès le début, ces écoles avaient la réputation d'être des écoles pour des expatriés. Le principe est donc le même que pour l'école européenne des enfants de fonctionnaires européens. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de son inauguration en 1957.
J'ai l'honneur et le privilège de remettre à l'école européenne, au nom du gouvernement luxembourgeois, cet édifice tout neuf.
C'était ce qu'on appelle la politique de l'implantation. Le gouvernement voulait attirer les institutions européennes. Aujourd'hui, il veut surtout attirer des entreprises.
Il n'y a rien de mal, à mon avis, à considérer la mise en place de cette école européenne nouvellement agréée du point de vue économique. De plus en plus d'entreprises, lorsqu'elles arrivent au Luxembourg, cherchent à savoir si leurs employés peuvent y trouver une offre scolaire adaptée à leurs enfants.
Voilà ce qu'a déclaré le député libéral Lex Tellis lorsqu'en 2016, la Chambre a adopté la loi sur la première école internationale publique. Il y a cependant une grande différence par rapport à l'école européenne d'origine. Les écoles internationales publiques sont gratuites et, en principe, tout le monde peut s'y inscrire, ce qui a créé une nouvelle dynamique. Plus les parents se demandent quel système est mieux adapté pour éduquer leurs enfants, plus l'école traditionnelle est sous pression. Les écoles internationales changent ainsi le paysage de l'éducation publique. Voilà pourquoi j'ai parlé au début d'une réforme qui n'est pas connue sous ce nom. Mais retournons à la journée scolaire de Sarah. Après la récré, les enfants de sa classe partent dans différentes directions. La plupart en cours de français, 3 enfants en cours d'allemand. Sarah est la seule élève qui entre dans une autre salle.
Portugiesisch. Mais je rêve un exercice de portugiesisch.
Je m'appelle Sandra Carvalho et je suis institutrice de portugais ici à l'École internationale d'Esch et d'Iverdange.
Tandis que ses camarades apprennent l'allemand ou le français comme langue étrangère, le cours de portugais de Sarah est adapté à sa situation.
Sarah fait portugais langue 1. Ça doit être le niveau qu'on espère d'un élève qui parle le portugais et qui va à l'école en portugais. Elle a la chance, parce qu'elle est toute la journée en anglais, elle a la chance que son anglais va être aussi à un très haut niveau. En fait, c'est ça que c'est l'avantage pour les élèves lusophones qui font portugais comme langue 1, qu'ils ont les deux langues à un très bon niveau. Si on travaille bien, parce qu'il faut bien travailler. Il n'y a pas de réussite sans travail, n'est-ce pas, Sarah? On va voir comment ça... C'est fait. Le devoir. Est-ce que tu as bien lu, là? Leste? Ontem? Muito bem, sim, senhora. E o que é que, nestas páginas que leu, o que é que me pode dizer sobre aquilo que é? Diga-me lá. La maîtrise d'une langue... C'est très important que la maîtrise soit forte, parce qu'on pense avec des mots, parce qu'on a besoin d'une langue pour penser, pour sentir, pour être citoyen.
Pour Sandra Carvalho, cette maîtrise de sa propre langue comprend aussi les proverbes.
Filho de peixe sabe nadar, esta é fácil. Por que é que um filho de peixe sabe nadar?
Porque ele está na água.
Exatamente. Os peixes sabem nadar muito bem, certo? Então, um filho de peixe...
Le fils du poisson sait nager. Quand j'ai entendu cela, j'ai pensé qu'il s'agissait encore d'un proverbe selon lequel les enfants deviennent comme leurs parents. Dans ce cas, dans le sens positif, on sait bien faire quelque chose puisque les parents le peuvent aussi, mais je rencontre ce genre de proverbe plus souvent dans un sens plus négatif. Le plus souvent, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. J'en ai parlé avec Sandra Carvalho, une conversation s'est ensuivie sur sa propre biographie et ses convictions en tant qu'enseignante.
Tu avais parlé avec Sarah de cette... comment tu voulais... proverbe...
Le fil de pêche savnadal.
Je vous écoutais, vous deux, et je me suis dit... c'est quand même un sujet énorme pour l'école, ça. La question, si... L'école peut permettre à ouvrir autre chose que ce qu'on reçoit à la maison.
Moi, peut-être c'est naïf, mais peut-être je vis dans un monde naïf. Mais pour moi, l'école a été une boîte de sauvetage. Pour moi, l'école a été une telle bonne expérience. Je suis vraiment un exemple parfait d'un ascenseur social qui a marché. L'école m'a donné tout ce que je suis.
Sandra Carvalho est née à Lisbonne en 1977. Elle y est allée à l'école et à l'université, puis elle a travaillé comme enseignante dans la banlieue de Lisbonne. Mais sa vie a été bouleversée par la crise économique de 2008.
C'était financièrement très difficile. Et même comme institutrice, je gagne beaucoup mieux que les gens qui ont le salaire minimum. Mais le prêt, donc j'avais acheté un appartement et le prêt montait monter tout le temps et mon salaire, il ne montait pas. Donc, c'était vraiment, vraiment très difficile de survivre, oui, de survenir à les besoins. Et aussi, je me suis divorcée à cette époque-là. Donc, les deux choses ensemble m'ont donné envie de partir et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance.
Sandra Carvalho déménage à Bruxelles pour y travailler à l'école européenne. Elle rejoint l'école internationale à Esch en 2018. Lors de la recherche d'un appartement, elle constate que les personnes avec un nom portugais ne sont pas toujours accueillies à bras ouverts au Luxembourg. Et à l'école, elle remarque rapidement que ses nouveaux élèves ont parfois vécu des expériences difficiles dans le système scolaire luxembourgeois.
Et là, la plupart du temps, ce n'était pas une bonne expérience. C'est vrai qu'on a appris qu'on est nul, qu'on ne sait pas rien faire, qu'on n'est pas bon élève, qu'on n'a pas des capacités. Et on se disait qu'avant d'enseigner le portugais, on devrait le redonner la confiance dans l'apprentissage. Et ça, c'est hyper difficile à faire. Et on doit le faire en disant, maintenant, vous avez une autre chance, une deuxième chance. Et c'est pour ça que je crois tellement au projet de notre école. Et c'est pour ça que je suis contente de travailler ici. C'est une mission. Je le vois comme une mission. Je veux aider ces élèves à réussir. Et quand je pense que ça ne marche pas, c'est parce que je n'ai pas trouvé la bonne astuce pour que ça marche. Donc, il faut réessayer. Et donc, on a du travail à vie.
Retournons voir Sarah, qui se dirige vers la pause déjeuner après son cours de portugais. Après sa première année à l'école internationale, le bilan de Sarah est mitigé. La concentration et les mathématiques restent un défi majeur. Lors de la discussion du bilan avec la mère de Sarah, ses professeurs, Sarah Barlow et Sandra Carvalho, expliquent combien d'efforts Sarah a encore à faire. Mais elles disent aussi que si elle le veut, elle peut le faire.
La dernière fois, pour le dernier spelling test, c'était comme tous les autres. C'était pas gribouillé, c'était pas « oh j'ai oublié, j'ai pas entendu, j'ai laissé le mot ». Non, c'était exactement ce que je lui ai demandé.
On fait une petite course, toute l'idée avec le spelling. Je fais une photocopie et elle garde le livre et puis je chronomètre, je dis « la première qui arrive à tout faire, c'est elle gagne ». Je m'y mets à l'anglais aussi, doucement, mais c'est dur.
Mais quand j'avais dit « mais c'est exactement ce que je demande de toi
ah ». Ouais.
Épatée, oui.
À la fin, Sarah Barlow a une bonne nouvelle pour la mère de Sarah.
Je suis ravie, elle fait des grands pas dans la bonne direction.
Okay.
Et il y a aussi un petit mot pour dire qu'elle passe en P5.
Si Sarah travaille bien, elle devrait aussi réussir le saut dans le secondaire, selon ses enseignantes. Le secondaire commence dès la sixième année dans les écoles européennes, c'est-à-dire un an plus tôt que dans le système scolaire luxembourgeois. Et il y a une autre différence. Les écoles européennes ne font pas de distinction entre les enfants qui arrivent en classique et en général. Il y a bien un préparatoire pour les élèves qui ne sont pas encore prêts pour le secondaire, mais tous les autres élèves sont préparés pour le même diplôme, le bac européen. Le problème, c'est que si on veut changer de direction, il faut retourner dans le système scolaire traditionnel. Et cela peut être difficile à cause des langues. Pour certains élèves, les écoles internationales risquent donc de devenir un cul-de-sac. Les formations professionnelles en anglais, par exemple, sont encore rares. La question de la capacité d'intégration se pose également à un niveau sociétal. En ce qui concerne l'enseignement du luxembourgeois comme langue d'intégration.
Maintenant, on retourne dans la classe et on va faire du luxembourgeois.
Voici Nils, un camarade de classe de Sarah. Nous l'avions déjà rencontré dans la cour de récré. Nous sommes, comme vous l'avez entendu, en route pour le cours de luxembourgeois. Il a lieu deux fois par semaine et la classe est en train de répéter une pièce de théâtre.
Also, kann an ein Bumi mit einem Hund, an die gehen an Start, und den Tram.
Okay, Lavinia Petre intervient en tant que remplaçante car l'enseignant luxembourgeois est malade. Elle parle aussi peu le luxembourgeois que la plupart des enfants de la classe. Nils est en fait l'un des rares élèves à s'exprimer librement en luxembourgeois. Il assume donc le rôle du narrateur. Nils est né au Luxembourg et il est allé à la Spielschule à Esch, où il a commencé à apprendre le luxembourgeois. Il parle catalan à la maison. Il est important aux yeux de ses parents qu'il parle luxembourgeois. Et ce qu'il apprend à l'école internationale ne suffit pas, trouve sa mère, Violaine Tarak.
Ils ont les luxembourgeoises, mais pour nous, on aimerait qu'ils en aient un peu plus. Et étant donné que pour l'instant, c'est comme ça, on a choisi de mettre, donc il fait la natation, il va à la musique, donc tout ça, il le fait en luxembourgeois. Bon, en plus, on habite dans un quartier qu'il joue tout le temps avec des amis en luxembourgeois, donc oui.
Dans les écoles internationales, le luxembourgeois est obligatoire jusqu'à la troisième année du secondaire. La grammaire et l'orthographe sont également enseignées, mais les langues, on les apprend surtout en parlant. Et tandis que dans les écoles traditionnelles, le luxembourgeois est la langue d'usage, qui supplante même en partie l'allemand et le français lors des cours, la langue principalement parlée dans les écoles internationales est la langue de la section, donc le français, l'anglais ou l'allemand. L'avantage est que les enfants ont plus d'occasions d'apprendre ces langues-là, mais l'inconvénient, c'est que le luxembourgeois est moins utilisé. J'ai rencontré une enseignante luxembourgeoise à l'EIDE qui critique, entre autres, le système des écoles internationales pour cette raison.
Je m'appelle Claire Albrecht, j'ai 28 ans et je travaille depuis 4 ans à l'école internationale à Esch.
Nous sommes dans le cours de luxembourgeois en première année de la section française.
Ich donne mein Rock.
Claire Albrecht n'est pas convaincue par les écoles internationales, pour de nombreuses raisons. D'une part, parce que les moyens financiers sont inférieurs à ceux des écoles traditionnelles.
Ce n'est pas le genre d'école pour enfants en difficulté, c'est presque exactement le contraire. Quelqu'un qui a une dyslexie ou un problème socio-émotionnel serait mieux encadré dans un système fondamental. Parce qu'ils ont aussi plus de ressources, ils ont 16 enfants. Quelqu'un qui ne se débrouille pas dans un groupe important se débrouillera encore moins ici.
Sie hat 16 Kinder, in denen nicht eins geht an eine große Gruppe, die geht heute noch mal eins wie du.
Et puis, la plupart des écoles internationales sont des écoles à journée entière, où les enseignants ne sont pas libres le mardi et le jeudi après-midi.
Pendant les deux premières années, j'étais ici tous les jours, de 8h à 4h. Ça s'accumule.
Ce n'est pas anormal pour un boulot.
Je suis tout de même dans l'enseignement. Je suis ici de 8h à 16h, comme pour un travail normal. Mais quand je rentre chez moi, mon travail n'est pas encore terminé.
La critique principale de Claire Albrecht est que les enfants n'apprendraient pas assez bien le luxembourgeois, une langue dont on a besoin pour devenir fonctionnaire au Luxembourg.
Et ils ne peuvent pas être intégrés correctement dans la société s'ils ne le parlent pas. Probablement qu'aucun de nos élèves ne deviendra enseignant dans une école fondamentale au Luxembourg.
Claire Albrecht souhaitant que l'on continue à chercher une meilleure solution, une solution dont tous les élèves puissent bénéficier.
C'est une île, mais ça ne devrait pas être une île. Je ne vois pas de problème au Brill. Ils ont quoi ? 5 ou 6 premières années d'école, la moitié en français et l'autre moitié en allemand. Je veux bien qu'on rajoute encore l'anglais, mais dans ce cas, il faut aussi faire attention par rapport à ce qui arrive au luxembourgeois.
Ce qui m'impressionne, c'est que les écoles internationales sont très immersives. Les enseignants parlent leur langue maternelle et se sentent vraiment à l'aise dans cette langue.
Oui, bien sûr, c'est un énorme avantage, mais je trouve qu'on n'a pas encore trouvé la recette parfaite.
Et nous sommes, toujours et encore, à la recherche d'autres recettes. Une réforme majeure de l'enseignement fondamental n'est toujours pas prévue. Au lieu de cela, le ministre de l'Éducation, Claude Maïch, a lancé un projet pilote en 2022. Il s'appuie sur une idée qui n'est pas si nouvelle, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode.
Alors je me suis dit, pourquoi ne pas commencer par enseigner le français? C'est plus proche de leur langue. Leurs parents doivent également parler français. J'ai donc fait une demande à la commission scolaire pour commencer en français en première année d'école primaire.
Ce que Sœur Edith et Karin Elsen ont tenté dans les années 70 est à nouveau à l'essai. Dans le prochain épisode, je vous amène à Chifflanche, à l'école Nelly Stein.
Donc tout d'un coup, on m'a dit, voilà, Madame Scholtes fait ça, et bien sûr l'impact sur l'école est énorme parce qu'on ne sait pas comment cela continuera, il y aura d'autres classes. Il y a eu des doutes, il y a aussi eu des critiques.
Die erste Pilotklasse, die dort vom Sikel 2 ent bis der Sikel 4 durchzieht, kommen da nur. Da sind Bedenken gewischt, da ist auch Kritik geäußert. Gehen.
Oh, 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 Monsieur O est un poireau. Monsieur O est un poireau.
Mauvais élève, un podcast Radio 100.7, recherche et rédaction, Pia Oppel et Pierre Ryland, soutenu par Tessie Treus, Jean-Claude Frank, Rick Mertens, Chris Zayen, Zemir Demic et Marie Trussard. Son et arrangements musicaux, Chris Simon, coordination, Yves Stefani, traduction, Philippe von Leipzig. Notre musique de titre, le Gassenhauer de Lorf Schulwerk, a été enregistrée sous la direction de Laurent Varnier par des élèves du Conservatoire de la ville de Luxembourg. Merci à Joé Alf, Constantin Barburavou, Michael Kellnen, Félix Dunkel, Lori Krier, Ina Molakava, Lola Schleicher, Julian Zeredinski, Yushan Lulupang, Louis Till et Eloise Twimumu.